Pendant les 45 minutes qui suivent, vous avez droit à un accent suisse-allemand. Voilà, je suis médecin de profession qui a viré dans la théologie. J'ai été missionnaire pendant 25 ans en Afrique et puis toujours logé chez les pasteurs sur mes voyages pour développer un projet médical de lutte contre la lèpre et la tuberculose. Et finalement, je me suis dit que ce n'était pas très sérieux de faire la théologie, former des pasteurs sans avoir une formation théologique soi-même. Et puis voilà, j'ai évolué en théologie. C'est par après que j'ai réalisé que j'étais l'un de très rares théologiens qui avait une formation de base en sciences humaines, lorsque j'ai fait ma thèse en médecine sur la réforme des études médicales à l'université de Berne. Donc j'ai fait une thèse en psychométrie et sociométrie. Voilà. Alors j'ai reformulé légèrement le sujet. Je l'ai compliqué en ligne avec le sujet de la journée. Donc le sujet sera plus complexe et moins complète, mais un peu plus dans la ligne de cette journée. Je vais essayer de circonscrire un peu, définir, c'est beaucoup trop prétentieux les concepts qu'on est en train de discuter, religion, culture, identité, vision du monde, et puis faire un parcours à travers les différentes religions. Les concepts de religion et culture ont été introduits, peut-être pas, mais redéfinis par les Lumières, surtout au XIXe et XXe siècle. D'abord comme des entités distinctes, et puis on a réalisé très bientôt qu'elles se recoupaient. Et puis, la notion est venue que la religion était le noyau de la culture. C'était surtout Paul Tillich qui a pensé dans cette direction. Une autre approche à la notion de religion, de penser aux dimensions. La religion traite de ses relations avec le monde invisible, avec ses rencontres avec les réalités sacrées ou saintes. La science des religions parle des réalités autres, de manière neutre, avec lesquelles on peut faire des expériences, trouver un sens pour la vie. En réponse à ces réalités autres, les religions développent des normes et des communautés. Maintenant qu'on parle aujourd'hui beaucoup plus de spiritualité, quelle de ces dimensions reste dans la spiritualité? On évite d'émettre des normes. Souvent, la vie religieuse est en solitaire aussi. Donc, pour finir, la notion de religion est très très complexe, très floue. Beaucoup ont déjà abandonné cette notion pour parler juste de culture. Le lien avec la culture est très proche et certainement la religion et la culture sont formatrices pour l'identité, elles-mêmes en lien avec la vision du monde. Donc, très très brièvement, qu'est-ce que l'identité? Ici, nous voulons parler d'une identité en Christ. Dans la perspective de la création, nous sommes créés à l'image de Dieu, nous l'avons entendu, dont le modèle type est le Christ. Dans la perspective de la rédemption, par le sacrifice expiatoire du Christ, nous sommes enfants de Dieu. Et dans notre cheminement, toujours plus transformés à l'image du Christ. Nous sommes aussi envoyés comme le Christ et comme l'Esprit, par le Père. Dans la perspective de l'anthropologie culturelle, de la psychologie, l'identité se développe dans cet espace dialogique entre le moi et l'altérité. L'altérité se différencie toujours plus pendant la vie. D'abord, c'est le bébé et la maman, et puis le papa s'ajoute, les frères et sœurs, les oncles et tantes, et finalement, l'être suprême. Et dans ce même espace dialogique, la vision du monde se développe. Donc, il y a un parallèle entre les deux. Il y a une autre approche à l'identité qui dit qu'elle est construite par une intégration progressive des expériences du passé et des systèmes de pensée de valeur. Et là encore, il y a une définition parallèle pour la vision du monde. On peut donc dire que vision du monde et identité ont un développement parallèle. Mais dans les différents milieux que nous évoluons, nous... Pardon, là il y a maintenant un changement qui change un peu la pédagogique de l'image. Alors, le changement du PC au Mac n'est pas... Donc, dans notre socialisation, nous évoluons dans différents milieux. Les parents nous transmettent une vision du monde, puis les copains et les copines, une autre. L'école, encore une autre. L'uni, encore une autre. La religion, encore une autre. Donc, chacune de ces visions du monde veut construire une identité. Et finalement, les différentes visions du monde luttent entre elles pour déterminer notre identité. Alors, toute l'énergie de l'organisme se perd dans cette lutte interne. L'autre résultat possible, c'est le syndrome de personnalité multiple qu'on rencontre en psychiatrie, qui est un cas pathologique. Mais au fond, chacun de nous évolue dans cette lutte interne de vision du monde pour une identité. Maintenant, quand nous connaissons le Christ et nous nous convertissons, la Bible devient déterminant pour nous. Donc, le chemin pour unifier notre identité, c'est d'évaluer chaque vision du monde, chaque élément de notre comportement à la lumière de la Bible pour construire une identité unifiée. Mais c'est très peu de gens qui traversent ce cheminement. Calvin, par exemple, à Genève, dans quelques années, il a prêché à travers toute la Bible. Il a imprégné les Genevois par une transformation de la vision du monde pour construire justement une identité unifiée. Alors, vous voyez déjà le lien entre identité et vision du monde. Qu'est-ce que maintenant la vision du monde encore? La vision du monde, selon Clifford Geertz, un anthropologue américain, est la manière de percevoir le monde et nous-mêmes. C'est l'image que les membres d'une culture partagent, la manière comme les choses sont réellement. L'homme commun ne fait donc pas la différence entre la perception des choses et la réalité des choses. Donc, entre la vision du monde et la réalité du monde. Alors, nous portons tous des lunettes au fond. Il y a beaucoup d'autres définitions de la vision du monde. Lothar Kaiser, un anthropologue allemand, par exemple, dit que la vision du monde, c'est une stratégie comment interpréter le monde. Charles Kraft, un anthropologue américain, dit que la vision du monde, ce sont nos présupposés, nos valeurs de base, nos conceptualisations. Alors, toujours est-il qu'une vision du monde est une simplification de la réalité trop complexe pour la rendre cohérente et compréhensible et maniable. Donc, c'est des grilles d'interprétation, des grilles d'orientation pour une approche pratique, des cartes, des plans, des lunettes. Alors, nous resterons pour la suite de notre exposé toujours dans cette optique de simplification. C'est un survol où j'essaie de vous donner quelques outils pour vous approcher des religions. Donc, dans ma vision, religion et culture, et aussi personnalité, se mêlent comme des fonctions de notre identité qui elle-même est une fonction de notre vision du monde ou de nos visions du monde. Si je comprends donc bien la vision du monde des êtres humains, je vais comprendre leur personnalité, leur culture, leur religion. C'est un raccourci. On ne peut pas étudier la psychologie pendant 6 ans, la sociologie pendant 6 ans, l'anthropologie culturelle pendant 6 ans, la science des religions pendant 6 ans, pour arriver à comprendre les humains qu'on veut toucher par l'évangile, mais il faut un raccourci. Alors, ça, c'est un raccourci possible, de voir la religion, la culture, la personnalité comme une fonction de la vision du monde. Beaucoup de chercheurs et de scientifiques ont abandonné les notions de religion, culture, vision du monde, parce qu'elles sont toutes très floues. Moi, j'adopte l'approche contraire, je les opérationnalise pour les rendre pratiques. Comment je les fais? En général par 4 modèles, dont je vais discuter seulement 2 aujourd'hui, les 5 concepts soteriologiques et la conception du monde ou de l'univers. Les 5 concepts soteriologiques, vous les connaissez, ce sont les doctrines théologiques de base, qui est Dieu, qui est l'homme, le mal, le péché, le salut, et puis la conception du monde. Je l'opérationnalise par le modèle stratigraphique de l'ordre créationnel. Par exemple, là encore, nous sommes dans la simplification. Je vous propose 4 types. Il y a un type qui voit l'univers de manière holistique, de manière globale. Dieu, le Dieu biblique, a dit, mais attention, moi, je suis différent du monde, de la création. Moi, je suis le créateur, je suis à part. Et puis, la vision du monde qui voit le monde visible en bas séparé du monde invisible, la sphère moyenne des esprits est pas touchée, pas répandue non plus. Et puis, le dernier type, la vision séculière, où seulement le monde visible est interprété et discuté. Le soi-disant surnaturel est exclu de la vision du monde. On peut maintenant attribuer ces 4 types aux religions. Alors, vous voyez que l'animisme à une approche globale à la réalité, il n'y a pas du surnaturel, tout est naturel. Le monde visible, le monde invisible dans un ensemble. Nous avons aussi les religions qui sont issues du terroir indien et chinois, l'hindouisme, le bouddhisme, Mahayana et le taoïsme. Une vision hébraïque, nous la trouvons dans le judaïsme, le christianisme, une vision dichotomique chez Platon, une vision séculière là où il y a eu des lumières, en Europe, en Inde, voilà. Alors, je vais revenir à ce schéma pour interpréter les phénomènes que nous rencontrons dans les différentes religions. Avec cet outillage, je vous invite donc à un parcours à travers les religions. D'abord, l'animisme, qui a donc une vision holistique, une autre approche à cette conception du monde, c'est toujours dans le monde matériel, nous sommes à la maison normalement. Hein. Vous me voyez, vous voyez la chair, l'ordinateur, le microphone, vous me voyez maintenant. Dans le monde invisible, il y a le double de ce monde. Vous ne voyez pas la chair invisible, le micro, vous ne voyez pas mon double. Alors nous sommes assez nombreux dans une vision animiste. Ça, c'est une approche à la conception du monde dans l'animisme, et elle est très réelle pour les ressortissants de ces systèmes culturels et religieux. La conception animiste de l'univers commence avec le disque de la Terre, sur lequel est la voûte, en dessous les eaux, et maintenant il y a les couches du ciel. Dans ces couches, il y a dans une couche basse les oiseaux, dans une couche plus haute le soleil, la lune, les étoiles, dans des couches intermédiaires, les villages des morts, et puis ces systèmes sont assez flexibles pour intégrer les nouveaux phénomènes comme les avions. Dans la couche suprême, il y a l'être suprême. Non, si vous pensez à ce que nous connaissons de la Bible, vous avez une adaptation, la terre avec les mers, les eaux dessous, la voûte dessus avec les eaux, et puis le soleil, la lune, les étoiles, et le village de mort, le Sheol, hein, ou en grec le Hadès. Si vous allez maintenant en Égypte, vous avez encore une autre variation de cela, vous avez Geb, le dieu de la terre, le Chou, le dieu de l'atmosphère, avec le souffle de vie. Vous avez ici le symbole du souffle de vie. Et puis, vous avez Nut, la déesse du ciel, qui forme la voûte, et le Ré, le dieu du soleil, avec le souffle de vie dans la main, avec Mat, la déesse de la mort, avec le souffle de vie à la main, traverse la voûte pendant la journée. Alors, vous avez des adaptations de cette conception de l'univers dans les différentes religions animistes que vous trouverez dans la Bible. Un jour, un pasteur africain me dit, mais le ciel a plusieurs couches. Hein. Paul, il est allé dans le troisième ciel, n'est-ce pas? Alors, peut-être ça vous surprend, ça ne vous plaît pas, que Dieu il ne s'occupe pas trop de quelle est notre vision du monde particulière, et que nous, au XXIe siècle, en Europe, nous avons une vision du monde tout autre. Et je pense Dieu peut bien vivre avec cela. Nous constatons qu'il y a un pluralisme culturel à l'intérieur de la Bible, entre les différentes religions avec lesquelles nous sommes confrontés dans nos rencontres avec les différents religionnaires. J'arrive à la conception de l'homme. L'homme animiste se perçoit donc comme un membre de la famille élargie, en face de son double et en relation avec ses ancêtres. Donc c'est une identité collective et relationnelle. Il dit « Je suis car nous sommes ». L'homme animiste se développe à l'image de son ancêtre. Moi, j'ai déjà expliqué à Johan que dans ma ligne paternelle, chaque deuxième génération, il y a un Johan. Mon nom Hannes, c'est une variante de Johan, mais ma maman n'a pas aimé Johan, qui est dans mon passeport, parce que Johan a une connotation négative, c'est pourquoi je suis Hannes aujourd'hui. Donc ça se répercute même dans les cultures européennes. L'homme animiste essaye de manipuler le monde invisible à travers les rituels. Donc c'est un système anthropocentrique. Ce n'est pas un système théocentrique comme la Bible le promeut. La personnalité de l'homme continue d'exister après la mort. La transition de la vie à la mort, c'est donc un processus transformateur pour devenir d'un double un ancêtre. La mort précoce, c'est une mort qui intervient avant l'âge avancé, et la mort grave, la mort due à un accident ou à une maladie grave, ces deux morts empêchent de devenir ancêtre. Le mal entre dans le monde par les êtres spirituels malveillants, les esprits méchants. Et la faute elle-même est considérée quand elle est découverte par la communauté seulement. Donc, une déviation de la norme qui n'est pas découverte ne fait pas de soucis. Alors, si vous avez un grand directeur d'une banque suisse avec une conscience, comme un animiste, il ne va pas se soucier de ces problèmes qu'il a créés. Nous trouvons cette conscience relationnelle un peu partout aujourd'hui. La notion de salut dans l'animisme le voit comme bien-être, comme harmonie, comme santé, la prospérité. Il est attendu dans l'ici et maintenant, et vous réalisez que vous trouvez cette conception dans l'Ancien Testament. Et elle réapparaît maintenant dans l'évangile de la prospérité, qui est très, 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 très attrayant dans notre monde. J'ai enseigné à Singapour. J'ai demandé aux étudiants de m'amener dans la plus grande église à Singapour, avec 10 000 sièges. Et puis, qu'est-ce qu'on a entendu? Une prédication de la prospérité. Pourquoi? Parce que le fond des Chinois singapouriens est animiste comme ici. Voilà, un petit tour sur l'animisme. Pour moi, l'animisme, c'est le système culturel et religieux que l'être humain a introduit après la chute. Et nous le trouvons partout dans le monde, aussi en France. Quand j'enseigne l'animisme, je n'ai jamais de pause parce qu'il y a tellement de questions sur des expériences que les gens ont de la difficulté d'interpréter. Nous passons dans l'islam. La prédestination, Allah détermine la vie du musulman moyen. Je n'ai pas apporté ici les références du Coran, mais pour chaque affirmation, j'aurai des références. Cette affirmation se trouve très souvent dans le Coran, mais il y a aussi l'affirmation contraire, l'homme est responsable de ses actes. Mais quand on est face à l'islam, on a quand même beaucoup plus l'impression d'être devant un système très fataliste. Inch'Allah, s'il plaît à Dieu. Ça, c'est une information très, très présente. L'homme dans l'islam est le représentant d'Allah, le khalifa d'Allah. Il est créé bon, mais faible. Alors, c'est normal qu'il pêche. C'est Allah qui l'a créé comme ça. Le péché, par contre, ne touche pas Allah. Allah est de loin au-dessus du péché de l'homme. Dans l'islam, on catégorise le péché dans des péchés majeurs. La non-reconnaissance d'Allah, c'est le kufr. Nous tous ici, nous sommes des kafres. L'association d'une divinité à Allah, shirk, nous tous ici, nous commettons le shirk. Nous avons associé d'autres personnes à Dieu. Et l'abandon de la foi, l'irtidad. Il y a aussi des grands péchés et les petits péchés, les grands péchés, le meurtre, l'adultère et des petits péchés comme le vol, qui sont ici aussi seulement critiques quand perçus par la communauté. Donc c'est une même conception. Pour moi, toutes les religions se sont développées à partir de l'animisme. Je ne peux pas le démontrer ici, mais pour le montrer. Donc, le jour du jugement, dans l'islam, la mort est donc suivie de la résurrection et du jugement. Au moment du jugement, les hommes et les djinns sont ressuscités pour être jugés, excepté les prophètes et les martyrs. Voici une grande motivation pour devenir martyr. Parce que les hommes et les djinns sont jugés selon les actes. Et là, les actes sont pesés sur une balance. Si les bons actes ont plus de poids, on arrive au paradis. Un musulman ne peut donc pas savoir s'il arrive au paradis ou pas. Les cinq piliers que vous connaissez sont un élément très fort pour une identité collective. Alors, toutes ces activités sont faites ensemble. Vous voyez une image de la prière commune, du pèlerinage. Et là, si on compare maintenant la signification de ces cinq piliers dans l'islam officiel avec l'islam populaire, vous remarquerez que, par exemple, le jeûne et le pèlerinage, qui sont formateurs pour l'identité commune, sont utilisés pour obtenir de la baraka, la puissance magique. Quand on est à la Kaaba, on revient comme El Hajj, mais avec une puissance particulière. La confession et l'aumône sont utilisés pour protéger du mal. L'islam populaire est beaucoup plus fréquent que l'islam officiel dans le monde islamique. Voilà. Tous ces éléments construisent l'identité. Donc l'identité est une entité très très complexe. Voilà l'islam, très brièvement. Vous voyez, c'est le TGV. On parcourt les religions très rapidement. Nous passons vers les religions orientales. Et là, maintenant, nous passons dans un autre monde. L'islam a encore quelques traits qui sont très familiers. L'hindouisme, il faut commencer à comprendre les termes déjà. Brahman, c'est la réalité suprême, l'essence du monde, de la réalité, la source de l'être. Atman, c'est ce qui correspond à Brahman dans les personnes. Alors, le plus souvent, c'est traduit comme âme ou soi. Le but, c'est que Atman s'éteint dans le Brahman, qu'il y ait fusion entre les deux. De penser que moi je suis, comme nous disons, un individu séparé de Brahman, c'est déjà l'illusion. c'est Maya. Là, nous vivons dans un monde qui va faire faillite finalement, parce qu'il est une illusion. Une notion très très importante dans l'hindouisme, c'est la non-dualité, Advaita. Brahma lui-même, il peut être créateur et création à la fois. Il peut être personnel et impersonnel à la fois. Alors, ce qui pour nous est très important, que Dieu est le créateur, distinct de la création, pour l'hindouisme, ce n'est pas le cas. C'est une illusion, c'est Maya. Il y a trois chemins au salut. Le Jnanamarga, le chemin de la connaissance par le yoga, par la méditation. Yoga signifie littéralement le joug, l'union avec l'absolu dans la méditation. Dans la méditation orientale, la personne fusionne avec la divinité. Donc, c'est l'union avec l'absolu. Ce chemin, c'est pour une élite, hein, pour les trois premières castes de l'hindouisme. Le chemin le plus fréquent, c'est le karma marga. Le karma, vous le connaissez, la loi de cause à effet, la loi de rétribution. Nous récoltons ce que nous semons. En fait, en Asie, c'est une course acharnée au mérite pour accumuler du karma positif. Et si les hindous regardent Jésus à la croix, ils rigolent, parce que là, vraiment, il a raté sa vie. Il n'avait pas suffisamment de karma positif pour ne pas arriver à la croix. Le Bhakti Marga, c'est donc le chemin par l'union intime avec la divinité. Et elle est très proche à notre cheminement avec notre Dieu, avec Jésus, dans l'amour. Mais encore une petite minorité qui poursuit cela dans l'ashram. Alors la sélection que vous voyez ici en Europe de l'hindouisme, ce n'est pas la réalité en Asie. En Asie, le chemin le plus fréquent, c'est le karma marga, c'est donc une course acharnée et très très déprimante au moksha, à l'illumination. Alors, parce que nous ratons toujours à avoir suffisamment de karma, nous devons toujours reprendre les cercles de réincarnation, le cercle de samsara, pour jusqu'à nous puissions arriver à moksha, la libération de notre maya, de notre illusion d'être séparé de Brahman, dans notre Atman, et pour littéralement s'éteindre dans le nirvana. En image, la goutte qui tombe dans l'océan. Je ne sais pas combien de vous seraient attirés par la perspective de s'éteindre dans l'océan pour ne rien devenir. Alors pour moi, ce n'est pas une perspective très attrayante. L'anthropologie dans l'hindouisme dit que les hommes seraient issus du Dieu créateur d'une partie, hein, de la tête les prêtres, des bras les guerriers, des reins les artisans, des pieds les serviteurs et de je ne sais pas où les hors-castes. Alors, les hors-castes sont 200 millions, donc 20% de la population indienne. C'est considérable. Ce sont ceux qui doivent faire les travaux les plus sales. Alors, on ne peut pas manger des mets qui ont été préparés par quelqu'un d'une autre caste. On ne peut pas marier hors caste. On ne peut pas aller dans un métier d'une autre caste. un brahmane doit toujours voyager par avion parce que les bateaux seront salis par l'eau de la mer. Alors, la notion de pureté devient une notion de grande préoccupation, comme pour les juifs. Alors, vous connaissez les images au bord de la rivière Gange, qui est d'ailleurs très polluée, mais dans la perspective rituelle, elle purifie. L'éthique dans l'hindouisme est très très complexe. Je prends ici seulement l'éthique du védisme, les cinq obligations, ce qui correspond au dharma. Dharma est traduit de manière très diverse comme enseignement, comme loi. Il faut étudier les Védas. Donc, Veda signifie connaissance, c'est la connaissance transmise par les voyants, les obligations vers les dieux, les ancêtres, les hommes, les animaux. Donc, c'est une vision holistique, hein, comme nous l'avons dit. Voilà, ce pour l'hindouisme. Dans le bouddhisme, on entre, comme dans l'islam, par une confession. Je me réfugie auprès du Bouddha. Bouddha, c'est un titre, ce n'est pas un nom propre. Auprès de la loi, donc le dharma, les obligations, l'enseignement du Bouddha auprès de l'assemblée, la Sangha. Pour moi, le Bouddha est un philosophe matérialiste. Il a dit les spéculations dans l'hindouisme ne m'intéressent pas. Tout ce polythéisme ne m'intéresse pas. L'homme souffre, il faut trouver une solution à la souffrance humaine. Donc, c'est une philosophie matérialiste au fond. Et ça se traduit dans la cosmologie bouddhiste. Ils ont introduit la notion de anatman. Donc, ça ne m'intéresse pas s'il y a un dieu ou pas. Ça ne m'intéresse pas si l'homme a une âme ou pas. Donc, anatman. L'homme, pour commencer, n'a pas d'âme. Un autre concept très important, la vacuité, c'est l'état où nous évoluons, dans le maya, dans l'illusion. Nous évoluons dans le vide, au fond. C'est aussi le but de la méditation, de nous vider, d'arriver à un état de vacuité. Alors, nous voyons, si nous étions dans l'hindouisme, comme ailleurs dans l'animisme, pour moi, l'hindouisme, c'est l'animisme indien. Maintenant, Bouddha a créé une philosophie matérialiste de cette religion avec une vision séculière. Qu'est-ce qui se passe maintenant si un peuple qui a une culture holistique est offert une religion avec une vision séculière? Vous le verrez tout de suite. Au Sri Lanka, c'est donc l'île avoisinante à l'Inde, ils ont dû mettre une divinité hindoue dans un temple bouddhiste. Parce que là, rien ne se passait quand les bouddhistes venaient avec une maladie. Quand ils viennent chez Vishnu, ici il y a Vishnu, pour le prier de les libérer de leur maladie. Voilà, il y a quelque chose qui se passe. Ou alors en Thaïlande, pour ne pas que les esprits, que la vision holistique conçoit dans sa vision du monde, entrent dans la maison, les Thaïlandais ont fait des maisons pour les esprits à côté de la maison, pour les humains. Alors, c'est juste pour dire, voilà, vous avez une religion avec une vision séculière, dans une culture avec une vision holistique. Alors, chacune prend des mesures particulières. L'anthropologie bouddhiste est encore un chapitre à part. L'homme est une agrégation instable d'éléments impermanents. On parle de réincarnation. Donc, à travers les incarnations, on est toujours assemblé différemment. Il n'y a pas d'identité continue à travers les différentes incarnations. Et là, vous voyez que l'anthropologie est très, très complexe. Pour comprendre ça, je vous dis simplement, le bouddhisme Theravada a 70 000 volumes d'écrits sacrés. Alors, ça se comprend de soi qu'il faut plusieurs vies pour travailler à travers tout cela. Alors, une bonne partie, c'est la méditation. Vous connaissez ces images. Ça, c'est une approche d'élite. Mais ce qui est courant, c'est la karma marga. Accumuler des mérites, par exemple, par tournant autour de l'arbre Bodhi. L'arbre Bodhi est l'arbre sous lequel le Bouddha a trouvé son illumination. Ou alors arroser l'arbre Bodhi. Ou alors allumer des bâtonnets dans le sens pour accumuler des mérites ou allumer des bougies pour accumuler des mérites. J'ai trouvé les bouddhistes, comme les hindous, très, très dépressifs. Alors, la sotériologie bouddhiste comparée, vous savez, il y a plusieurs courants dans le bouddhisme. Le bouddhisme petit véhicule, Theravada, ça veut dire l'enseignement des anciens, l'enseignement donc du Bouddha même, dit que les mérites ne sont pas transférables. Donc, dire que Jésus va être l'intermédiaire pour notre salut, ça c'est ridicule. Il ne peut pas nous transmettre ses mérites. Et d'ailleurs, quand il a pendu à la croix, il a manqué de mérites de toute façon. Ça c'est un message très ridicule. Le bouddhisme grand véhicule, Mahayana, celui de la Chine, là, il prévoit le salut par les efforts d'autrui, par les bodhisattvas. Je vous montrerai les bodhisattvas tout de suite. Donc, là, il y a la médiation, comme chez nous dans le christianisme. Et troisièmement, il y a le bouddhisme Tantrayana, donc le véhicule du Tantra. Ce sont des pratiques occultes qui nous apportent le salut. Les bodhisattvas, donc dans le bouddhisme Mahayana, sont des humains qui ont renoncé à entrer au nirvana au profit de nous qui sommes restés derrière pour nous aider. Donc là, il y a un élément altruiste, une médiation. Comparons pas seulement la sotériologie, mais ces systèmes religieux du bouddhisme Theravada et Mahayana. Bouddha a dit, je ne veux pas de spéculation, pas de métaphysique. Ce qui compte, c'est la souffrance humaine. Pour le bouddhisme Mahayana, il croit en un absolu éternel. Donc nous voyons que le terroir chinois a adapté la religion avec une vision séculière à une vision holistique. Donc là, le bouddhisme est devenu toute une autre religion. Le Bouddha est, selon Hinayana, un homme naturel, un philosophe matérialiste, on pourrait dire. Pour les bouddhistes Mahayana, ils disent, mais c'est l'incarnation du Bouddha cosmique. Le mérite karmique est non transférable dans le Hinayana, est transférable par les bodhisattvas dans le bouddhisme Mahayana. L'objectif immédiat, c'est l'extinction, le nirvana, l'objectif ultime aussi ici, mais ici en Mahayana, c'est devenir un bodhisattva et alors avoir la conscience de la libération. Encore une fois, le Mahayana bouddhisme s'est adapté au terroir chinois qui a une vision holistique, que vous reconnaîtrez dans le confucianisme, dans le taoïsme, dans l'animisme chinois. Et l'enseignement propre du Bouddha dans le Theravada bouddhisme a une philosophie matérialiste. Maintenant, pour compliquer tout cela, oui, c'est la dernière phrase que j'entame. Si nous voulons amener ces religionnaires maintenant à Christ, il y a un grand travail qui attend de nous. Travail déjà pour connaître ces religions. Je vous ai montré un chemin simplifié, mais il y a mille et un détails à apprendre. Et puis, évaluer tous ces éléments religieux, culturels, à la lumière de la Bible. Je vous remercie.